Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Le journal avec Joséphine Jones Mundimana.
Nous sommes samedi 24 septembre 2022. Vous êtes bien sur la radio Nzamba Gate Kakawe. C'est l'heure du journal. Donc voici d'abord l'essentiel. Le tribunal de grande instance de Rumonge a requis une peine de 3 ans de prison contre une femme employée à la direction provinciale de l'enseignement pour avoir trempé dans un cas d'escroquerie. C'était ce vendredi dans un procès de flagrance. Et puis les cartes d'identité biométriques seront bientôt disponibles dans tout le pays. C'est une annonce faite par le nouveau ministre burundais de l'Intérieur, Martin Nyerere. Et dans le magazine Au cœur de la société de tous les samedis, aujourd'hui nous parlons de la déclaration des biens des mandataires publics en début de leur fonction.
Suivez les émissions de la radio Nzamba en direct sur le www.nzamba.org.
Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le parti au pouvoir, le CNDD, vous aide à organiser ce samedi des manifestations de soutien aux actions du président de la République, Evariste Ndayishimiye. En mairie de Bujumbura, les manifestants se sont rencontrés à la place de l'indépendance. Le secrétaire provincial du parti, Didémon Mboukiye, a indiqué dans son discours que les militants du parti CNDD, vous aide sont satisfaits des décisions fortes du président de la République de limoger ce qu'il qualifie de corrompu au sein du gouvernement. On écoute l'extrait de son discours.
Nous sommes satisfaits des décisions nobles que le chef de l'État a prises pour que la population, y compris celle de Bujumbura, puisse accéder facilement à certains produits comme le sucre, le carburant et bien d'autres produits qui manquaient au marché à cause des gens corrompus. Et ces gens-là, le président de la République a décidé de les destituer. Depuis que le père de la nation a pris cette bonne décision d'écarter ceux-là qui condamnaient tous les Burundais, aujourd'hui le sucre est disponible dans tous les quartiers de la mairie de Bujumbura.
Parlons justice à présent. 3 ans de prison et une amende de 200 000 francs burundais. C'est le verdict du tribunal de grande instance de Rumonge contre une femme travaillant à la direction provinciale de l'enseignement à Rumonge. C'était ce vendredi dans un procès de flagrance. Elle est condamnée pour avoir escroqué une enseignante de la commune de Buyengero en lui promettant qu'elle allait faciliter sa mutation vers Rumonge où vit sa famille. Les habitants de Rumonge profitent de ce procès pour demander que la corruption soit bannie dans la province de Rumonge où plusieurs cas se sont déjà manifestés. Le point avec Karine Doussabe.
Elle s'appelle Evelyne Ndayizeye. Elle est secrétaire de la direction provinciale de l'enseignement en province Rumonge. Le montant qu'elle a reçu de Divine Shimilimana, une enseignante de la commune Wuyengero, est de plus de 600 000 francs burundais. L'enseignante en question voulait une mutation de la commune Wuyengero à la commune Rumonge pour s'approcher de sa famille qui vit dans cette commune. Elle avait rassuré l'enseignante, si l'on en croit, à sa défense à la barre au tribunal de grande instance de Rumonge. Cette somme d'argent collectée devrait être partagée entre le directeur communal de l'enseignement à Wuyengero, le secrétaire communal du parti CNDD-FDD à Wuyengero, le secrétaire provincial de ce même parti à Rumonge. La victime a saisi les autorités citées par Evelyne dans ce dossier qui ont nié leur implication. Selon toujours nos sources, ce sont eux qui ont par la suite ordonné son arrestation lundi dernier. Dans un procès de flagrance de ce vendredi, la secrétaire de la DPE Rumonge a été accusée d'escroquerie et outrage envers les autorités publiques. Evelyne a écopé 3 ans de prison ferme et une amende de 200 000 francs burundais. Et doit en outre rembourser l'argent de l'enseignante. Les habitants de la province Rumonge dénoncent une corruption qui gangrène les institutions dans cette province. Pour eux, le cas de cette enseignante n'est pas isolé et ces autorités ne sont pas les premières à être citées. Ils demandent aussi qu'il y ait facilité de mutation pour les fonctionnaires qui travaillent loin de leur famille, car aller jusqu'à donner des pots de vin montre à quel point ils sont fatigués. Nous avons cherché à joindre les autorités de la DPE Rumonge et du parti CNDD-FDD pour leur réaction sans succès.
Les agriculteurs des provinces Lutana et Makamba n'ont pas encore reçu l'autorisation de payer la totalité des frais destinés aux fertilisants. D'autres disent encore qu'ils n'ont pas pu payer des avances France pour avoir eu une courte période de paiement. Ils disent qu'ils seront en retard, comme ça a été le cas la dernière saison culturelle. Les détails avec Beram Guicha.
Comme l'indiquent certains agriculteurs des provinces Sultana et Makamba, ils n'ont pas encore reçu la permission de payer la totalité des frais des fertilisants auxquels ils ont payé des avances alors qu'ils sont en pleine saison des pluies. Ils disent qu'ils seront en retard, comme cela a été la dernière saison culturelle où certains agriculteurs n'ont même pas bénéficié des fertilisants qu'ils avaient payés, ce qui a provoqué une faible production agricole. D'autres encore disent qu'ils n'ont pas pu payer des avances suite à une courte période de paiement des avances qui a été octroyée par le gouvernement. Ils expliquent que cette période a coïncidé avec la recherche des documents scolaires de leurs enfants. Au moment où ces derniers demandent qu'une autre période de paiement des avances leur soit accordée, les premiers demandent que les fertilisants qu'ils ont payés leur soient distribués pour qu'ils puissent procéder à la semis. Cela est ainsi au moment où des informations provenant de ces deux provinces disent qu'une minime quantité de fertilisants est déjà en les stocks des chefs-lieux. À ce sujet, la radio Inzamba Agathe Kakawe a essayé de joindre par téléphone les autorités des provinces Makamba et Lutana, mais sans succès.
Et je vous le disais dans les titres, les premières cartes d'identité biométrique seront disponibles d'ici le mois de décembre. 11 communes ont été identifiées pour bénéficier de ces cartes. L'annonce est du ministre de l'Intérieur, Martin Inerete. Selon le ministre, les machines pour leur fabrication ont déjà été commandées. Suivez le ministre Martin Ninerese.
Nous sommes en train de faire la digitalisation des services d'état civil et nous sommes très avancés. Parce que quand vous ne pouvez pas identifier la population, il est difficile de planifier quoi que ce soit en faveur des personnes que vous ne connaissez pas bien. D'abord l'état civil et puis la carte d'identité biométrique, un nom biodégradable. Et aujourd'hui, nous en sommes à la commande des imprimantes pour effectuer des essais dans 11 communes. Pilotes déjà identifiés. Je pense que d'ici la fin de l'année, les premières cartes d'identité seront déjà disponibles et tout ce qui porte sur l'identification des gens. Par exemple, nous allons suivre des gens qui se marient deux ou trois fois, ils changent de nom et de carte d'identité. Ils quittent Kayanza et vont à Bouli. Quand la personne n'est pas de bonne mœurs, il ou elle va chez une autre femme ou un autre homme à cause d'une mauvaise traçabilité.
Inzamba. Comme tous les samedis sur la radio Inzamba Agathe Kakawe, place maintenant au magazine au cœur de la société. Aujourd'hui, on va se focaliser sur la déclaration du patrimoine des autorités en début de leur mandat au Burundi.
Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba Agathe Kakawe, Radio RPA Ijuya Nyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance.
L'article 95 de la Constitution du Burundi stipule que lors de l'entrée en fonction et à la fin de celle-ci, le président de la République, le vice-président, le premier ministre et les membres du gouvernement sont tenus de faire sur l'honneur une déclaration écrite de leurs biens et patrimoine adressée à la Cour suprême, ce qui n'a pas encore été fait par ces hautes autorités du pays. Quelles sont les conséquences de ce refus de déclaration des richesses par les plus hautes autorités? Quelles sont les conséquences de cette violation de la loi fondamentale? Nous avons fait recours aux analystes en économie et en droit dans le mini-magazine Au cœur de la société de ce 24 septembre 2022. Pierre Garungu à la présentation. Bienvenue. Au début de son mandat en 2020, le président Évariste Ndayishimiye semblait se soucier de cette obligation des mandataires publics de déclarer leur richesse. Après quelques jours seulement, le numéro 1 burundais a fait volte-face. Le point avec Emini Basumba de la RPA.
Deux mois après son accession au pouvoir, c'était le 23 août 2020, Évariste Ndayishimiye a demandé aux hautes autorités de déclarer leurs biens et patrimoine.
À partir
de demain, commencez tous à vous préparer pour que dans les semaines à venir, on commence à déclarer nos richesses devant la justice. À la fin de nos mandats, on fera le même exercice pour montrer que nous n'avons pas détourné la richesse du pays.
Un mois
plus tard, le 25 septembre de la même année 2020, lors de la conférence publique à Gitega, le président Évariste Ndayishimiye avait fait volte-face. Selon lui, chacun pourrait garder secret ses richesses, mais que la vérification interviendrait si et seulement si il y avait des soupçons de détournement. La question a été ensuite officiellement évoquée dans le Conseil des ministres du 9 juin 2021. Le président Évariste Ndayishimiye a demandé ce jour-là aux membres du gouvernement de procéder à la déclaration de leurs biens, car selon lui, les formulaires relatifs étaient déjà disponibles à la Cour suprême. Mais jusqu'à présent, on ne sait pas où en sont ces membres du gouvernement, y compris le président de la République, sur cette question de déclaration de leurs richesses.
Tout pays qui n'exige pas la déclaration des biens et patrimoine pour ses mandataires politiques souffre en matière de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption, selon l'économiste Faustin Dikoumana.
La déclaration de biens, c'est le fondement même de la bonne gouvernance dans un pays. Si on veut renforcer la politique de bonne gouvernance dans un pays, le premier principe, c'est la déclaration des biens par les mandataires publics. Parce que la déclaration des biens rappelle aux autorités, aux mandataires publics, qu'ils sont redevables par rapport à leur mission de travail. Cette déclaration leur rappelle aussi qu'ils ne doivent jamais confondre, pendant l'exercice de leurs fonctions, leur patrimoine et le patrimoine public, qu'ils doivent respecter la chose publique. Aussi, cette déclaration aide à combattre l'enrichissement illicite, les mauvais pratiques d'enrichissement illicite, le blanchiment, où une petite minorité s'accapare au pouvoir s'accapare les richesses du pays, en délaissant le reste du pays dans une misère indescriptible. Cette déclaration aide à lutter contre la corruption. La déclaration de biens aide à suivre méticuleusement l'enrichissement de ces cadres. Si vous enrichissez de façon illicite, alors vous serez appelé à répondre.
Lorsque la loi est violée par ceux qui sont au sommet de l'État et qui étaient censés la faire respecter, la culture de respect de la loi est alors reléguée au second plan, même pour les autres administratifs. C'est le juriste Vital Jibimana qui le dit.
Quand le président de la République dit que la déclaration du patrimoine n'est pas nécessaire, donc comprendre que la violation de la Constitution et des lois du Burundi est permise, à ce moment, tout le monde s'y adonne. Et en conséquence, cette loi ne peut pas être appliquée. Ceci pose également la question de l'indépendance du pouvoir judiciaire, parce que la déclaration du patrimoine devrait être reçue par la Cour suprême et les autres juridictions. Donc, en conséquence, ces juridictions doivent exiger le respect de cette disposition légale, mais tel n'est pas le cas aujourd'hui.
À part l'article 95 de la Constitution du 7 juin 2018, la loi anticorruption oblige encore les mandataires politiques à déclarer, en plus de leurs biens et patrimoine, ceux de leurs conjoints et enfants mineurs, qu'ils soient propriétaires, usagers ou détenteurs habituels. Ces lois sont aujourd'hui sciemment violées par les concernés. Et c'est par ici que prend fin le mini-magazine Au cœur de la société. Pierre Garongou était à la présentation. Au revoir.
C'était l'émission Au cœur de la société.
Et pour boucler ce journal, suivons la revue de presse avec Georges Méña.
Revue de la presse à la radio Indamba.
Bienvenue chers auditrices et auditeurs de la radio Indamba. La revue de presse de ce samedi s'ouvre sur le journal SOS Média qui écrit sur l'institution d'Ubushinganahe, une institution qui tend vers son abolition. L'inauguration des nouveaux tribunaux locaux répond au vœu du ministre des Affaires intérieures qui avait écrit sur son compte Twitter, je cite, « Les fonctions de Bashinganahe cesseront sur tout le territoire burundais dès la prestation de serment des nouveaux membres du conseil des notables collinaires élus. » Fin de citation. Mais selon Adrien Sibomana, ancien premier ministre burundais et président actuel de l'institution de Bashinganahe au Burundi, dit qu'il est impossible de mettre fin à cette institution. Je cite encore, il est très pertinent que le gouvernement ou le ministère de la Justice mette en place un nouveau tribunal ou de nouveaux tribunaux. ça n'a rien à voir avec le comportement d'un Moshe Anahe, qui est l'homme qui dit la vérité, qui soigne bien la cohabitation avec les autres citoyens, quelqu'un qui cumule des qualités humaines de l'humanisme. Personne ne peut mettre fin à son comportement. Fin de citation. Nous poursuivons cette revue avec Burundi Echo. Un centre régional multisectoriel dépourvu d'équipement, titre le journal. Érigé en province Karoussi, avec une capacité d'accueil de 1080 personnes, ce centre a été construit pendant 2 ans grâce aux fonds propres du gouvernement qui s'évalue à 15 milliards de francs burundais. Il occupe une superficie de 12 hectares. Il est constitué de 8 blocs d'ateliers, de 3 dortoirs d'une capacité de 600 élèves, 3 blocs de salles de classe, d'un bloc de réfectoire, d'une salle polyvalente, d'un bloc administratif et d'une bibliothèque. Mais alors, le défi majeur qui hante ce centre est celui du manque d'équipement, même si le gouvernement envisage la construction d'autres centres dans les provinces de Kirundo, Changuzo, Makamba et Bubanza. L'idée de construction de ce centre est venue d'une enquête menée par le ministère de l'Intérieur en septembre 2020, laquelle enquête a montré que plus de 400 000 jeunes diplômés sont sans emploi. Le chef de l'État, qui a inauguré ce centre le 15 septembre 2022, a bien précisé que plus de 60% d'entre eux sont des jeunes sans profession. Selon lui, même s'ils ont des diplômes, ils ne peuvent pas accéder au marché du travail suite à l'incompétence technique. Le chef de l'État accuse le système éducatif burundais, je cite, qui ne permet pas d'acquérir les compétences techniques. Conditions difficiles. Catalyseur de discours et Tinza s'interroge le journal Iwacu. À cette interrogation, le journal évoque des raisons qui sont à l'origine des divisions ethniques. C'est notamment les différentes situations de crise que connaissent les pays qui amènent les populations à chercher des réponses dans le passé pour identifier un groupe qu'il faut attiser. C'est de là que naissent les discours de haine, selon toujours le journal Iwacu. Des gens cherchent à se décharger sur les autres pour trouver des personnes sur lesquelles on fait tomber les torts des autres afin de justifier leur situation. La deuxième raison, selon Iwacu, je cite encore, c'est lorsque les leaders veulent détourner l'attention des vrais problèmes du moment afin de conduire les gens à chercher des causes ailleurs. Or, pour un leader, quand les gens se focalisent sur la cause du moment, il y a cette décrédibilisation pour le leader. C'est la raison de son renvoi au passé pour juger l'inaction. Fait de citation. Voilà, mesdames et messieurs, c'est par cet élément que nous bouclons la revue de presse de ce samedi. Nous étions avec Georges Nimenya. Au revoir et bon week-end.
Revue de la presse à la radio Indamba.
Merci Georges Nimenya et c'est par cette revue de presse que nous mettons un terme à ce journal. Merci pour votre attention. Un très bon week-end chez vous. Au revoir et à la prochaine.